La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre, bonjour. Et bonjour à tous. Dans tous les domaines, il y a des modes. Il y a des modes pour les prénoms que l'on donne aux enfants, il y a des modes pour les costumes que l'on porte pour les meetings, et même des modes pour les mariages, pour les tenues des mariés. Pour preuve, ce titre à la une de l'Ardennais. Pourquoi pas se marier en robe de princesse ? Un dossier dans lequel on apprend que l'univers Disney séduit de plus en plus de robes, s'inspirant des princesses des dessins animés, Cendrillon, Blanche-Neige ou bien encore Belle de La Belle et la Bête. Pour l'heure, on n'a toutefois pas relevé de Pocahontas dans les églises et dans les mairies de l'Hexagone. La randonnée est également très à la mode. Et dans ce cas-là, mieux vaut oublier la robe de princesse. La rando, un business qui marche, titre joliment le Télégramme, précisant donc qu'elle fait de plus en plus d'adeptes, notamment en Bretagne. Pour les chiens aussi. Figurez-vous qu'il y a des modes. C'est ce que nous explique Jérôme Sage dans Le Parisien dimanche. Et l'article a de quoi inquiéter. Plusieurs races de chiens sont proches de l'extinction. Notamment les braques de l'Ariège et les épagneuls de Pont-Audemer. Ces derniers étaient très utiles pour la chasse aux canards. Mais selon les critères modernes, ce sont des bêtes qui sentent mauvais. Menacé également le Skye Terrier d'Écosse. Vous savez, le chien qui a servi de modèle à Pollux du Manège Enchanté. Ces différentes races sont donc en voie de disparition car elles ne sont plus à la mode. Apparemment, les gens préfèrent aujourd'hui les animaux tranquilles et qui n'aboient pas trop, les Golden Retrievers par exemple, ou alors les cockers. Très à la mode les cockers. Une dynamique lancée par la BD Boule et Bill, une BD récemment adaptée au cinéma. Mais il y a également des modes plus alarmantes, comme en témoigne le récit de Christelle de Tadéo dans le journal du dimanche.
Le jeu étrange qui pousse les ados au suicide.
C'est un phénomène viral qui se propage comme une onde de choc depuis quelques semaines. Le défi de la baleine bleue, c'est son nom, est arrivé en France. Et derrière ce nom en apparence innocent, se cache un nouveau jeu mortifère à destination des adolescents. Le principe est le suivant. Sur les réseaux sociaux, Facebook en l'occurrence, un parrain impose aux jeunes une succession de 50 défis à relever en autant de jours. Des défis de plus en plus dangereux, et ce jusqu'au suicide. L'ultime défi étant de se jeter du haut d'un immeuble. En Alsace, le rectorat de Strasbourg a appelé cette semaine tous les chefs d'établissement à la vigilance après une dizaine de signalements concernant des collégiens de l'académie. L'un des adolescents en était, paraît-il, à un stade avancé du jeu et d'autres ont été signalés dans les académies de Lille, de Lyon, d'Orléans, Tours et de Versailles. Depuis 2 ans, ce sinistre défi de la baleine bleue sévit d'ailleurs sur V-Contact, le réseau Facebook russe. Là-bas, plus de 130 adolescents auraient déjà trouvé la mort en allant jusqu'au bout de leur défi. Du reste, un autre défi sévit également en Russie, celui-ci à destination des moins de 12 ans, tout aussi terrifiant. Comment devenir une fée du feu ? Il incite les petites filles à allumer les brûleurs à gaz quand tout le monde dort dans la maison en répétant des mots magiques. Tout cela n'a rien de magique. En politique non plus, on ne peut pas vraiment dire que l'heure soit à la magie. En revanche, là aussi, il est souvent question de mode.
Oui, et celle qui pointe en tête de la plupart des sondages s'affiche en une du Parisien.
Elle rase gratis, c'est le titre de l'édito de Frédéric Vizard. Et ce « elle » désigne donc Marine Le Pen. Elle s'est entretenue avec 6 lecteurs du journal. Interview dans laquelle elle multiplie les promesses aux retraités, aux professions indépendantes, aux jeunes diplômés, aux patrons de PME, aux médecins, aux plombiers. Tout le monde y trouvera son compte, mais rien n'est vraiment chiffré. Ironise l'éditorialiste, pour les retraités, elle promet d'augmenter le minimum de vieillesse de 800 à 1000 euros. Pour les étudiants, elle promet d'augmenter l'aide au logement de 25%. Elle promet en outre l'augmentation de l'allocation pour les handicapés. Et quand les lecteurs l'interrogent sur le passé sulfureux de certains de ses proches, nombre d'entre eux ont appartenu au GUD, syndicat étudiant d'extrême droite, elle répond « Et alors ?» Comme François Fillon à propos des costumes qui lui avaient été offerts et qu'il assure avoir rendus. Sachant que c'est tout de même assez surprenant de pouvoir rendre des costumes qui ont été faits sur mesure. François Fillon, dont le JDD a suivi la campagne hier au Pays Basque, une nouvelle fois. Il a été accueilli par une vingtaine d'opposants équipés de casseroles. « Je les emmerde », a-t-il lancé. Ce sont des militants d'extrême gauche. Long portrait du candidat Les Républicains à lire cette semaine dans les Inrecuptibles. Petits arrangements avec la vérité. Où l'on découvre que François Fillon s'adonne depuis sa jeunesse à la mythomanie et qu'il a composé un récit autobiographique qui ne correspond pas toujours au dire de ceux qui l'ont connu. Il raconte ainsi qu'il a rédigé des dépêches pour l'AFP quand il était étudiant. Quand il rêvait de devenir journaliste, oui, il a rêvé de devenir journaliste. Or, à l'AFP, on n'a retrouvé aucune trace des dépêches en question. Il prétend aussi qu'au lycée, il était un rebelle. Mais un de ses anciens camarades raconte tout autre chose. Il était apparemment devenu la tête de turc d'une partie de sa classe, faisant l'objet de nombreuses railleries. On lui prêtait alors des penchants efféminés et l'ex-camarade se souvient, on avait trouvé un surnom qui lui collait très bien à François. On l'appelait Choupette. Gros dossier politique également ce matin dans le journal du dimanche. Un fond noir à la une et ce titre en trois mots, la sale campagne. Pourquoi et comment les scandales polluent le débat, l'opération main propre que propose Benoît Hamon. Le candidat socialiste présentera en début de semaine une série de dispositions en matière de transparence et de lutte contre la corruption. Première de ces dispositions, la suppression pure et simple de l'immunité parlementaire qui, selon lui, devient un moyen d'empêcher la justice d'enquêter et de fonctionner normalement. L'argent pollue la campagne, ce qui veut dire qu'il n'est pas à sa bonne place, explique Benoît Hamon. Aujourd'hui, ajoute-t-il, on devrait s'occuper du pouvoir d'achat des Français, pas de celui des élus. À propos de justice et de pouvoir d'achat, c'est mardi que Pénélope Fillon est convoquée au pôle financier pour rencontrer les magistrats en charge de l'enquête sur son emploi d'assistante parlementaire. D'après le JDD, l'épouse du candidat à la présidentielle risque une triple mise en examen pour recel de détournement de fonds publics, recel d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie aggravée. Dès lors, répondra-t-elle aux questions des juges ou fera-t-elle, comme son mari, une simple déclaration? Selon l'un de ses intimes, elle devrait s'expliquer. Elle est prête et combative, assure-t-il à l'hebdomadaire. Et puis c'est aussi le JDD qu'ont choisi 10 sénateurs centristes pour annoncer leur soutien à Emmanuel Macron. Parmi eux, Michel Mercier, ex-ministre de la Justice dans le gouvernement de François Fillon, d'après Le Parisien. Dominique de Villepin préparerait d'ailleurs lui aussi son ralliement. Ce serait également le cas vraisemblablement de la fille de Jacques Chirac, Claude Chirac.
En gastronomie également, il y a des modes.
La mode du sucré salé, la mode de l'huile d'olive, partout la mode de la cuisine moléculaire. Mais comment cela se passe-t-il lorsque dans une même famille, on apprécie des mets radicalement différents? Comment composer lorsque les habitudes alimentaires sont incompatibles? C'est l'objet de l'enquête savoureuse. Que signe Marlène Duretz dans Le Monde quand la cuisine sème la zizanie dans le couple? Un carnivore qui vit avec une végétarienne, un adepte du sans lactose qui vit avec une dévoreuse de petits suisses, une intolérante au gluten qui vit avec le tenant du titre officieux du meilleur pâtissier. Alors donc, comment faire? Réponse, tout est une question de dosage. On s'adapte, on fait des efforts et surtout, on s'empêche d'être trop saignant pour qualifier les plats de l'autre. Si l'on trouve que c'est trop cuit, on ne dit pas c'est trop cuit, non. On dit plutôt c'est audacieux le choix de la surcuisson. Si on trouve que c'est trop salé, on ne dit pas c'est trop salé, non. On dit plutôt l'assaisonnement est vraiment très présent. Et si jamais l'on trouve que la recette de notre amoureuse ou de notre amoureux pue un peu, on ne dit pas c'est quoi cette odeur, mais on dit plutôt mon trésor, avec ta recette, on est sur un arôme très puissant. Voilà pour le manger, pour le boire, faites attention si vous prenez la mer, boire ou naviguer, il va falloir choisir, c'est-à-dire dans Le Parisien, un projet gouvernemental prévoit d'instaurer bientôt des tests d'alcoolémie sur les bateaux. C'est vrai que c'est très physique de manœuvrer en mer. On ne peut pas se permettre d'être bourré à la barre, commente le navigateur Jean-Luc Vandenen, mais comment vont-ils faire pour les contrôles? Les contrôles en mer, effectivement, ce sera pas simple. Enfin, c'était hier la journée mondiale de la procrastination et je vous avais promis,
oui,
chère Patricia,
mais
de
oui,
vous
on
en
attend,
parler
on
aujourd'hui.
Attend, on attend.
Mais tout bien réfléchi, je pense vraiment que ça peut attendre le week-end prochain.
Merci, c'était la revue de presse de Frédéric Pommier.